la mémoire est un processus, peut-être quelques mots sur, sur cela. La mémoire traverse des étapes et certains analystes de la mémoire ont essayé de schématiser, de systématiser ce processus de construction de la mémoire. Alors, le schéma qu'ils ont élaboré me paraît sujet à caution. Il n'est pas normatif, il n'a pas une valeur universelle et générale, parce qu'on pourrait trouver des contre-exemples, mais ils ont suggéré un modèle, disons, d'interprétation du processus de construction de la mémoire qui me paraît intéressant. Je me réfère aux travaux d'un philosophe et un historien français très connu. L'historien s'appelle Henri Rousseau. Il est l'auteur de ce livre intitulé « Le syndrome de Vichy », qui est une histoire de la mémoire de Vichy dans la société française. Et Paul Ricoeur, qui est un philosophe, qui est l'auteur de ce grand livre qui s'intitule « Histoire, mémoire et oubli ». Qui n'est pas un historien, mais qui est un philosophe qui réfléchit sur l'histoire. Eh bien, selon Rousseau et Ricoeur, la mémoire est un processus qui traverse différentes étapes. Il donne cet exemple, par référence à Vichy, à la Deuxième Guerre mondiale et à l'Holocauste. D'abord un trauma, une rupture, un événement fondateur, une catastrophe, souvent, suivi par une longue phase d'oubli ou de refoulement de la mémoire. Et cette phase, qui peut être plus ou moins longue selon les circonstances, les pays, les contextes, laisse la place à une anamnèse, c'est-à-dire un retour du refoulé, pour parler en termes psychanalytiques, une récupération de la mémoire. Et cette récupération de la mémoire peut parfois virer à l'obsession mémorielle. Je pense que dans le cas, si on veut étudier la mémoire, les parcours de la mémoire de la Shoah en Europe, dans le monde occidental, ce schéma me paraît pertinent. Le trauma, la Deuxième Guerre mondiale, les camps d'extermination, le génocide, suivi par une longue période d'oubli, de refoulement. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de placer Auschwitz au centre de nos représentations de l'histoire du XXe siècle, au centre de notre vision de l'histoire. Ce n'est pas la vision qu'on avait dans les années 50 ou 60. À cette époque-là, Auschwitz apparaissait comme un aspect marginal de la Seconde Guerre mondiale. Et la mémoire de la Shoah était portée non pas par des institutions, non pas dans l'espace public, n'était pas l'objet de musées, de films produits par l'industrie de la culture, les films qui sont produits à Hollywood, par exemple, qui parlent de l'Holocauste. Cela aurait été inimaginable dans les années 50 ou 60. Cette mémoire était portée par une communauté de survivants qui était une communauté assez marginalisée, assez isolée dans les sociétés. Pour donner un exemple qui est parfaitement compréhensible, dans les années 50 ou 60, Maurice Papon était un haut fonctionnaire de la République, de la 4e République, ministre de la 5e République. Il n'était pas l'objet de poursuites judiciaires à cause du rôle qu'il a joué pendant la Deuxième Guerre mondiale pour la déportation des Juifs de Bordeaux. Certains sinistres personnages qui ont rédigé les lois de Nuremberg en Allemagne en 1935 sont devenus ministres des gouvernements de Adenauer en Allemagne dans les années 50. Donc ça, c'est le climat de l'époque de refoulement et d'oubli. Et puis, il y a une anamnèse, un retour de la mémoire, une récupération. Il y a des détonateurs parfois. Il y a des événements qui font basculer un paysage mémoriel et qui permettent à un événement qui avait été marginalisé ou oublié de revenir au centre de l'attention. Par exemple, dans le cas de la Shoah, c'est le procès Eichmann à Jérusalem. Pour la première fois, bon, l'Holocauste qui avait été un aspect, encore une fois, qui n'avait pas été au centre de Nuremberg. À Nuremberg, ça, on avait fait le procès du nazisme et pas de l'Holocauste. Bon, à Jérusalem, en 1961, on fait le procès de l'Holocauste, incarné par cette figure de fonctionnaire du Troisième Reich, Eichmann. Et c'est la première fois que les rescapés des camps d'extermination peuvent dire ce qu'ils ont vécu, peuvent, c'est un moment cathartique presque, hein, de paroles qui se libèrent, ils peuvent dire ce qu'ils ont vécu devant les caméras du monde entier. C'est quelque chose qui a un impact énorme et qui amorce un processus. Et puis il y a d'autres événements, la guerre des six jours, etc. Mais d'autres procès en Allemagne, par exemple. Eh bien, ce processus qui se déclenche de récupération d'anamnèse peut virer à l'obsession mémorielle. Et c'est le cas, je dirais, de notre époque, de nos jours, où on revient constamment sur ce passé. Et aujourd'hui, la mémoire de la Shoah, qui était tout à fait marginale à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la mémoire de la Shoah est devenue une sorte de paradigme, hein, de la mémoire d'un siècle de totalitarisme, d'un siècle de violence, d'un siècle de catastrophe. Et la mémoire de la Shoah, ont écrit certains analystes, certains. Peter Novick, un historien américain, la mémoire de la Shoah est devenue une religion civile du monde occidental. Le concept de religion civile n'a rien de méprisant. C'est une religion civile au sens d'une religion laïque, hein, d'une mémoire qui se veut pédagogique, qui se veut exemplaire, une mémoire qui sert à ne pas répéter les erreurs et ne pas retomber dans les crimes du passé. Et une religion civile parce que cette mémoire est ritualisée et se traduit dans une sorte de liturgie, les commémorations, les musées, l'éducation, etc. Et donc cette obsession mémorielle se traduit en Allemagne, par exemple, l'historiker Streit dans les années, la querelle des historiens dans les années 80, jusqu'à la création d'un gigantesque mémorial juste à côté du Reichstag, au cœur de Berlin, de la capitale allemande, qui est immense, hein, et qui rappelle les crimes du nazisme. Bon, ça c'est un peu le parcours de cette mémoire. Je disais, ce parcours n'est pas normatif, hein, parce qu'il y a d'autres événements qui n'ont pas connu ce parcours. Il y a des pays dans lesquels, par exemple, je suis italien, la mémoire du colonialisme en Italie, vous avez déjà discuté récemment de ce grand livre, la fracture coloniale, eh bien, la mémoire du colonialisme en Italie est constamment refoulée, hein. C'est quelque chose dont on ne parle jamais. Et on pourrait donner d'autres exemples. Bon, je parle de l'Argentine. Eh bien, en Argentine, il n'y a pas eu de refoulement. En Argentine, la mémoire de la disparition, la mémoire des crimes de la dictature militaire se surgit encore sous la dictature militaire. Cette mémoire, les défilés des maires de la place de Mai à Buenos Aires avec le portrait des disparus, c'est déjà une commémoration. D'une certaine façon, eh bien, ces défilés, cette mémoire est une arme de lutte contre la dictature et cette mémoire se construit après la chute de la dictature. Donc, il n'y a pas eu de refoulement, il n'y a pas eu d'oubli. Mais en même temps, comme dans plusieurs pays d'Amérique latine, au Chili, ça a été la même chose, il y a une transition démocratique qui ne passe pas par une rupture symbolique comme l'a été la chute du nazisme en Europe, qui ne passe pas par une rupture symbolique comme le procès de Nuremberg, qui est un acte de justice. Qui est perçu comme cela. Et donc, les militaires qui se retirent, mais qui détiennent toujours une partie du pouvoir, qui font approuvent toute une série de lois qui les rendent, comment dire, qui les soustraient à la justice. Et donc, il n'y a pas eu de rupture qui est indispensable pour passer de la mémoire à l'histoire, pour passer du souvenir à une reconstruction. À partir d'une distance, d'un recul, d'une séparation du passé. Donc ce schéma n'est pas un schéma, je dirais, de porte normatif, mais me semble intéressant et a sa pertinence. Alors je disais, pendant la période du refoulement, la mémoire est une revendication. Surtout des victimes. Pendant la période pendant laquelle on ne parle pas de la Shoah, eh bien, revendiquer cette mémoire est un travail anticonformiste, est un travail qui va contre le courant. Adorno, en Allemagne, écrit des textes enflammés dans les années 50 sur le concept de Vergangenheit, Bewältigung, comment surmonter le passé. Hein. Il dit c'est une mystification, la Vergangenheit, Bewältigung, c'est le mythe d'une réconciliation qui n'est qu'une façon, qu'une manière d'oublier les crimes du passé. Eh bien, à cette époque, Primo Levi parle de la mémoire comme d'une thérapie rédemptrice. Et Jean Améry, un autre rescapé d'Auschwitz, revendique son ressentiment en tant que victime, parce que c'est un ressentiment qu'il veut jeter au visage des exécuteurs, au visage des nazis qui sont encore là, qui sont encore là et qui se sont recyclés, qui ont pu retrouver leur place dans la société. Eh bien, dans une autre époque, à l'époque de l'obsession mémorielle qui est la nôtre, le devoir de mémoire devient souvent une rhétorique vide, hein, devient souvent une formule qui est utilisée et qui apparaît souvent comme vidée de son sens. Et c'est à l'époque de l'obsession mémorielle que la mémoire fait l'objet des usages publics et politiques, parfois les plus discutables, les plus controversés et les plus dangereux.